Je vais vous parler d'une entreprise, et on parle d'avant 1900. Donc pour vous dire, hein, avant 1900, c'était au 19e siècle, et encore, peut-être même avant, mais en tous les cas, je vais vous parler d'une entreprise qui, elle, et c'est pour ça les services publics, ça va vous apporter peut-être un début de réflexion sur le sujet du fait que on a créé, nos ancêtres ont mis en place des services publics, ce n'est pas pour rien, d'accord ? Alors, j'ai fait quelques recherches, sur une entreprise qui, à l'époque, appartenait à la famille de l'ingénieur Guillaume Ritter. Vous allez me dire, qui est Guillaume Ritter ? Ah ! Eh bien, c'est on va dire, celui qui était avant les entreprises électriques fribourgeoises. Les plus vieux d'entre vous, peut-être, connaissent ces trois lettres, E et F, entreprises électriques fribourgeoises. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette entreprise, et vous allez comprendre qu'à un moment donné, nos ancêtres ont décidé, d'accord, de mettre en place des services publics, et pas pour rien. Alors, à la fin du 19e siècle, on pose les bases des EFF, avec, on va dire, c'est pour la gestion, l'exploitation des forces hydrauliques dans le canton de Fribourg, notamment le long de la Sarine et de la Jaugne. L'administration cantonale des eaux et forêts, hein, prend le contrôle des installations qui, à l'époque, appartenaient à l'ingénieur Guillaume Ritter, incluant les barrages et l'usine hydroélectrique de la Mégrauge, qui ont été construites, accrochez-vous bien, en 1873. Et pourquoi ils reprennent ça ? Eh bien, parce que ça a fait faillite. Oui, oui, vous avez bien entendu, ça a fait faillite. Donc, ces infrastructures deviennent la propriété de l'État fribourgeois, et puis ça marque ainsi le début d'une gestion publique de l'électricité dans le canton. Vous avez bien entendu, une gestion publique de l'électricité dans le canton. En 1893, d'accord, on effectue des transformations à l'usine de la Mégrauge, hein, qui se modernise pour répondre aux besoins croissants en énergie. Les bénéfices de l'entreprise des eaux et forêts sont affectés à l'entretien de la faculté des sciences de l'université de Fribourg, renforçant les liens entre l'État et le secteur énergétique. Bonne idée, non ? D'appliquer au niveau de la recherche, etc., les bénéfices de voilà. Donc là, on a un bon concept qui permet d'injecter dans la formation, etc. Voilà. C'est une bonne idée. En 1902, alors, installation de la centrale hydraulique de Tuzy-Haute-Rive, suivie en 1910 par l'usine d'Holberg, qui remplace les installations obsolètes de la Mégrauge. Après d'autres usines, hein, on a Mauvauvon, Châtel-Saint-Denis, je crois, puis il y a aussi une, je crois, vers Romont, qui sont créées, hein, et puis qui permettent de produire plus d'électricité pour le canton, pour les habitants, etc. Alors, les propriétaires, d'accord, hein, donc des infrastructures, etc., sont directement gérés par l'État de Fribourg, d'accord, via le service d'administration des eaux et forêts. Et il n'y a pas d'entité, on va dire, d'entreprise indépendante comme les EEF, pour l'instant, qui existent. Et aucune structure d'actionnariat privé n'existe non plus. L'État est le seul propriétaire et les décisions sont prises dans le cadre de l'administration publique. D'accord ? Et on va continuer. Tout à coup, naissance en 1915 des entreprises électriques fribourgeoises. La fameuse EEF, d'accord. Alors la fondation, elle se fait officielle, et puis ça regroupe les différentes installations, donc la Mingrauge, Holberg, Haute-Rive, Montbovon, et puis donc tout cela se met en place, et en 1917, les EEF sont créées, voilà, comme une régie d'État. Il faut bien le préciser, d'accord, c'est une régie, les EEF sont une régie d'État à l'époque, sous le régime du droit public, mais avec une grande autonomie opérationnelle, comparable, mais ce n'est pas une, à celle d'une société anonyme. Cette structure permet une gestion flexible, tout en restant sous contrôle cantonal. Alors bien sûr, comme c'est un contrôle cantonal, l'État leur donne des, on va dire, un cahier des charges concernant la distribution d'énergie, etc. Et puis surtout pour assurer, on va dire, l'essor économique du canton. D'accord. Alors, il y a une exploitation encore accrue du bassin de la Sarine, etc. Et puis, on va dire, les EEF deviennent un acteur clé dans le dans l'industrialisation et l'électrification du canton. D'accord. Donc, les EEF sont toujours sous contrôle de l'État fribourgeois, qui en reste propriétaire exclusif. Et leur impact sur la vie publique, tant politique qu'économique, est majeur. Ils sont perçus comme le visage de l'État pour les fribourgeois dans leur quotidien. À ce niveau-là, il n'y a aucun actionnariat, il n'y a rien du tout. L'État de Fribourg détient 100% des EEF. Voilà. Alors, il a été difficile, d'après ce que j'ai pu essayer de fouiller, de savoir qui exactement dirigeait à l'époque, le nom des gens qui dirigeaient à l'époque ces EEF. Hein. Mais bon, on sait que de 1918 à 1921, ils ont encore mis en avant la construction de barrages à Mont-Salvan. Et puis, ce projet de barrage à Mont-Salvan, qui a été inauguré en 1921, a augmenté les capacités de production hydroélectrique des entreprises, donc des EEF, et puis a permis encore d'augmenter les possibilités industrielles cantonales. Entre 1930 et 1950, eh bien là, on a eu toute l'histoire de l'électroménager qui est venu se greffer dessus. Et les EEF diversifient en investissant dans la vente d'électroménager. On avait des magasins EEF. Il y en avait un qui était au boulevard Pérol, que tout le monde, le boulevard de Pérol à Fribourg, que beaucoup de personnes qui ont plus de 40 ans ont connu. Hein, plus de 40-50 ans ont connu avec ces enseignes, cette enseigne qui était rouge, c'était marqué EEF dessus, voilà. Où ils vendaient des cuisinières, de toutes sortes de produits électroménagers. Et puis, c'était pour l'époque hein, qu'une entreprise comme ça, étatique, se mette à promouvoir des produits industriels. C'était assez innovant. Puisque anecdotiquement, il paraît qu'en 1943, ils ont présenté la première cuisinière électrique à Anneau Mobile à Bâle, d'accord. Et puis on avait aussi une entreprise qui s'appelait Sarina qui a fabriqué des cuisinières, etc. Alors, ils sont passés aussi au chauffe-eau, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais bon, tout le monde était content de ces entreprises qui étaient fribourgeoises. Tout le monde était fier. C'était un petit bout de chaque citoyen fribourgeois, parce que ben voilà, c'était l'État toujours qui gérait tout ça et tout allait bien. Et oui, tout allait bien. Les EEF étaient une espèce de clé politique, économique, cantonale. Et puis, ils ont, grâce à tout ça, ben, soutenu l'électrification des zones rurales et toujours l'industrialisation. Et puis, dans les années 60, ils ont encore évolué avec, cette fois-ci, on a un nom, Joseph Ackermann, qui était le directeur en 1961, le directeur des EEF. Il présente l'historique des barrages sur la Sarine, et puis il fait connaître le travail assez fantastique de cette entreprise qui, je rappelle, est toujours une régie d'État. Voilà. La régie d'État, la régie publique, ne distribue pas de concessions ou de quoi que ce soit d'étranger à son fonctionnement, puisqu'elle est propriétaire d'absolument tout ce qui produit de l'électricité dans le canton, au niveau notamment hydroélectrique. Alors, on continue, tout va bien. Année après année, on arrive en 1990. Et puis là, on commence. Ça commence à sentir un peu le caca, puisqu'on a les premiers partenariats et puis la préparation. Vous savez, à la même époque, on faisait la même chose pour la Poste suisse, hein, et la libéralisation. Alors, en 1990, pour les 75 ans de la création des EF, ils ont mis en avant leur rôle et le développement énergétique du canton. Et puis ils ont dit ah oui mais on pourrait tel un élève dans une classe qui lève la main mais qui n'ose pas demander pour aller faire pipi, hein, s'associer avec avec le canton de Berne. Seulement là, au canton de Berne, ils avaient déjà pris de l'avance et puis il y avait BKB, FMB, Énergie, SA. C'était une SA à Berne. BKB, FMB, Énergie, SA. Voilà. Alors, ils ont dit, ouais, d'accord, alors on accepte que les EEF détiennent 5% de BKB. Et puis, inversement, et c'est là que ça commence à devenir bizarre, BKV, par contre, prend lui 10% de part dans les EEF. Alors, soi-disant que ce partenariat vise à renforcer les plateformes commerciales, marketing, informatique, tout en préservant, soi-disant, l'autonomie des deux entités. Et puis, l'État fribourgeois, à ce moment-là, reste le principal propriétaire. Mais la participation de BKV, donc des 10%, introduit un actionnariat minoritaire externe. Et c'est là que ça commence à déconner. Les EF ne sont pas encore une société anonyme, mais leur structure évolue vers plus, entre guillemets, d'ouverture. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ouverture, mais en tous les cas, ça bouge, et gentiment, on arrive en 2001. Et alors là, coup de tonnerre, d'accord ? Les EEF, en 2001, passent du statut de régie d'État à celui de société anonyme. Voilà. Et soi-disant, ça, au nom de la modernisation. C'est quand même étonnant. D'accord ? Donc, jusqu'à présent, tout avait bien fonctionné. Mais depuis 2001, depuis 1900, entre 1990 et 2001, donc en 10 ans à peu près, eh bien, cette entreprise s'est retrouvée, cette régie fédérale cantonale s'est retrouvée tout à coup en SA en 2001. Voilà. Et tout ça, encore une fois, c'est pour votre bien-être, messieurs, dames. Oui, c'est comme les injections létales. Quand vous transformez, c'est pour sauver papi, mamie. Ouais. Moi, je vous garantis, c'est ce qu'ils disent, hein. D'accord. Alors, ils ont tout à coup décidé de fusionner. Oui, mais pas avec n'importe qui, avec l'ENSA. C'est l'électricité neuchâteloise SA. Eh oui. Donc, voilà. Alors après, ils ont élargi le groupe, d'accord. Et puis, tout à coup, ils courent maintenant non plus Fribourg, mais aussi Neuchâtel. Alors, le canton de Fribourg conserve une participation majoritaire, 80%. BKV, donc le canton de Berne, maintient sa participation de 10%. Et puis après, on a d'autres actionnaires minoritaires. Alors, je n'ai pas pu avoir malheureusement la liste de ces actionnaires, mais voilà, peuvent entrer au capital. Voilà. Alors, malgré les transformations en SA, on nous caresse dans le sens du poil, on nous dit que le canton de Fribourg reste l'actionnaire dominant et conserve un contrôle stratégique, etc. Les EEF continuent à jouer un rôle clé dans la politique énergétique cantonale et blablabla et blablabla. J'ai pas pu avoir non plus une composition détaillée pour l'année 2001 du conseil d'administration. Voilà. Mais il y a une gouvernance derrière qui se met en place avec des représentants, je pense, des cantons et puis des petits actionnaires minoritaires. Voilà. Et puis 2005-2006, grand chambardement, fusion officielle des EEF avec ENSA, donc l'entreprise neuchâteloise d'électricité et les EEF, d'accord. Et puis qui donne naissance à groupe ESA, le 1er janvier 2006. Alors, évidemment, cette fusion, encore une fois, les bons mots, hein, renforce la position de l'entreprise comme un acteur énergétique majeur en Suisse occidentale, desservant 400 000 habitants dans le canton de Fribourg, Neuchâtel et Vaud, Broye, Pays d'en Haut, etc. Voilà, le groupe E devient un producteur et distributeur d'électricité avec 3000 tétrawatts distribués par an, voilà, etc., les détails. Bon. Bref, tout ça pour vous dire, messieurs, dames, que on est parti d'une entreprise qui a fait faillite, a été repris et mis comme parce qu'on avait besoin d'électricité. On ne peut pas bosser avec des gens qui font faillite, ce n'est pas possible. On ne peut pas, voilà. L'électricité doit être un domaine public. D'accord. Et puis donc l'État de Fribourg a repris monsieur Guillaume Ritter, l'entreprise en faillite, et puis l'a amené au sommet à l'époque de sa gloire, tout en étant une régie d'État au service des gens, qui était gérée par le canton, etc., au service de la population, pour le bien-être de la population, avec différentes activités bien sûr qui ont été développées au fil du temps, différentes constructions, mais tout ça était régi par l'État de Fribourg, le département des eaux et forêts, qui s'occupait très bien de la chose. Pendant des décennies, ça a très bien fonctionné. C'est étonnant quand même. Et je vois que certains bouillonnent derrière en se disant « Oui, je vois où il veut venir, je vois où il veut venir. » Oui. Alors, on va continuer. Donc, l'État de Fribourg continue à garder, soi-disant, le contrôle total, mais derrière... 2005-2006, ce groupe, et bien maintenant, on a un conseil d'administration où on a Philippe Virdis qui devient directeur général. Voilà, c'est un des leaders influents, d'accord. Et puis derrière, il y a aussi quelques conseillers d'État fribourgeois et puis des experts du secteur énergétique. Tiens, des experts du secteur énergétique. Alors peut-être il y a les fabricants de turbines, je rigole, mais parce que j'ai pas réussi à obtenir les détails. Mais il aurait été bon d'avoir les détails de ces soi-disant, entre guillemets, ou peut-être vrais, experts, d'accord ? Parce que là, ça devient limite, d'accord ? Voilà, de 2008 à 2015, il y a des controverses quand même, parce que ça commence, notamment en 2008, ça a groupé, a suscité des polémiques en investissant 162 millions de francs dans une centrale à charbon en Allemagne. En contradiction avec son image axée sur le développement durable et blablabla et blablabla. Voilà. Alors, Philippe Virdis, il défend notamment comme une nécessité pour sécuriser l'approvisionnement. Ah bon ? Alors, on est passé du canton de Fribourg, qui était pratiquement autonome en énergie, à une relation avec le canton de Berthe, suivi une relation avec Neuchâtel. Et puis maintenant, eh bien, on a une relation allemande. Voilà. Alors derrière, ils ont créé, pour gérer tout ce petit monde et tout ça, ils ont créé Groupe E Green Watt, une filiale qui est dédiée en énergie renouvelable avec un plan d'investissement de 350 millions de francs d'ici à 2030. En 2015, ils célèbrent à grands coups les 100 ans des EEF. Mais les EEF n'existent plus. D'accord ? Et puis les 10 ans du Groupe E. Voilà. Alors, ils ont publié un ouvrage, ils ont organisé dans les différentes... J'ai été du reste à l'époque visiter, ils ont organisé des visites pour des barrages, différentes choses, des manifestations, etc. En mettant bien avant l'impact environnemental et sociétal de l'électricité, blablabla, blablabla. Alors qu'en fait, derrière, ils rachetaient, où ils investissaient dans des centrales à charbon. C'est quand même étonnant, mais c'est une vérité. Voilà. Donc ça avait un peu secoué le cocotier. Voilà. Alors, le canton de Fribourg, jusque-là, est toujours, soi-disant, actionnaire, est actionnaire, majoritaire à 80%. Et puis, il y a BKV toujours derrière. Et puis, il y a certains employés aussi qui peuvent être actionnaires, mais minoritaires. Voilà. Les liens, soi-disant, j'ai bien soi-disant parce que on n'a pas tous les détails, puisque comme c'est devenu une entreprise privée, une SA, tous les trucs de réunion, de machin, de trucs, c'est soumis à des secrets, etc. D'accord. Donc vous ne pouvez pratiquement plus rien savoir. Voilà. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont commencé à s'interroger, notamment des députés, qui ont commencé à s'interroger sur les compétences des représentants cantonaux face aux enjeux complexes des marchés énergétiques. D'accord. Alors, ils ont quand même un peu tourné la balance et puis il y a quand même maintenant des conseillers d'État fribourgeois qui sont mentionnés comme membres du conseil d'administration. Mais j'arrive pas à trouver des noms précis. Voilà. Et puis la gouvernance a encore inclus des experts techniques et des représentants, des représentations de différents partis politiques. Voilà. Tout en sachant que quand on est dans un conseil d'administration, on peut toucher des jetons. Eh oui, on peut toucher du pépette, des pognons, du fric, du flouze. Intéressant, n'est-ce pas ? À titre individuel, bien sûr. Oui. Alors, de 2017 à 2025, on a Ils ouvrent encore des différents endroits, notamment un point de vente à Bulle en 2017, etc. C'est des petits détails, mais bon, ils essayent un peu de se faire bien voir, d'accord. Et puis en 2022, on apprend que le groupe emploie plus de 2500 collaborateurs et gère un réseau de distribution dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud. L'entreprise met l'accent sur la neutralité carbone. Ah ben oui, on revient. Hein. N'oubliez pas que derrière, on a en face une escroquerie énorme avec le GIEC, etc. Voilà. Et 2022, on nous bassine comme quoi c'est très bien, c'est très beau, tout va bien. Sauf que, ils commencent déjà à perdre du pognon et ils envisagent la suite un peu de manière assez bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont, entre guillemets, parce que faut pas oublier que ces entreprises-là sont comme des bateaux et qu'il y a un système d'inertie directionnelle qui rentre en ligne de compte. Et tout à coup, on a eu la guerre en Ukraine et c'est-à-dire l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, d'accord, pour éviter la propagation et le développement du nazisme, etc. Et la défense des citoyens russes, eh bien, qui se faisaient ukrainiens, hein, mais de langue russophone, eh bien, qui se faisaient bombarder en 2014, 2015, etc. Donc, ça faisait un moment que ça durait. Et puis là, on a reçu de cette entreprise une claque au niveau des tarifs. Les tarifs ont explosé. Et c'est dans tout le secteur. C'est-à-dire qu'ils sont tous mis d'accord à un moment donné pour augmenter et faire exploser les tarifs avec des arguments plus ou moins bidons, hein, arguments du reste que j'avais dénoncé dans un courrier il y a 2 ans maintenant, que tout un chacun pouvait envoyer au groupé ou alors à BKV ou d'autres fournisseurs d'électricité, où ils se foutent royalement de notre gueule avec des termes complètement absurdes et ubuesques. Mais bon, voilà. Et puis aujourd'hui, pour revenir à ce jour aujourd'hui, en 2025, hier, on apprend qu'ils licencient 188 personnes. Ça sent le gaz au groupé, ça sent le gaz. Ils font de l'électricité, mais ça sent le gaz. Hein. Y a pas de quoi s'étonner un peu. Alors, je rappelle juste que c'est une entreprise qui provient d'une faillite privée, au départ. Hein. Et puis, est-ce que ça, on va pas refaire ça, c'est-à-dire d'ici 2030, on aura le groupé en faillite et puis l'État devra reprendre et puis en plus de ça, l'État devra éponger les dettes de ces gens-là. Parce qu'ils investissent en plus. Ah, on met 1 milliard par-ci, 2 millions par-là. Ils investissent, ces gens-là. Et par contre, qui fait les frais de tout ce merdier? De toute cette espèce d'escroquerie énergétique? Qui fait les frais? Eh bien, c'est les employés, les êtres humains. C'est 188 personnes, alors on peut nous bassiner, hein, on peut nous faire un bain de siège avec l'histoire des plans sociaux et blablabla et blablabla. C'est 188 personnes qui vont perdre leur emploi. Voilà. Y a de quoi aussi, là aussi, s'interroger. Alors j'ai peut-être été un peu long dans ma description historique de ce qu'est devenu le groupe E à partir des entreprises électriques fribourgeoises, mais il fallait que ce soit dit à un moment donné. Il fallait que ce soit dit, il fallait que vous l'entendiez, que suite à une faillite, c'est l'État qui reprend, et puis là, on se dirige de nouveau vers quelques problèmes financiers, parce qu'une entreprise qui restructure comme ça et qui biffe, alors qu'il y a 3 ans, j'avais bien, tout va bien, j'ai 2500 employés, et puis là, qui biffe directement 188 emplois, c'est pas anodin. C'est pas anodin. D'accord. Alors, vous allez encore me dire, ouais, Monsieur Vermeil, vous savez pas de quoi vous causez. C'est plus complexe que ce que vous dites. Non. Arrêtez de me parler à tout bout de champ de complexité de la problématique. C'est faux. C'est complètement faux. Et vous le savez très bien. D'accord. On a créé nos ancêtres. D'accord. Ont créé des services publics, ils savent très bien pourquoi ils ont créé des services publics. Sinon, pensez bien que depuis des décennies, des siècles, que l'homme a une activité sur Terre, les services publics n'existeraient pas si le privé était quelque chose de fantastique, hein, pour la gestion de biens communs. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens, à un moment donné, comprennent que il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries. Il faut qu'on revienne dans tous les secteurs où on va dire, les biens doivent être partagés, d'accord, les frais doivent être partagés dans tous les secteurs. Je pense à la santé, je pense à la poste, je pense au transport, je pense à l'énergie, justement, le gaz, l'électricité, etc. C'est des besoins que dont tout un chacun a l'utilité tous les jours, et ces biens-là ne devraient pas être dans des mains privées. Elle devrait être gérée par l'État avec un droit de regard et une transparence totale, avec un T majuscule, la transparence, eh oui, totale, par l'État, et des régies d'État. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et d'utiliser un mot que je commence à détester, c'est le mot rentabilité. Les services publics n'ont pas pour but premier d'être rentables. Justement, c'est pour ça qu'on les a transformés en services, entre guillemets, publics, parce qu'on sait très bien qu'il est difficile de les financer ou qu'elles s'autofinancent elles-mêmes. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas un master en économie, en droit ou je ne sais quoi, mais j'ai un minimum de on va dire, de réflexion, de bon sens, et j'ai bien l'impression que le groupe est... ça va faire comme un peu, vous savez, on doit sauver le Crédit Suisse, on doit sauver l'UBS, on doit sauver. En fait, on sauve des entreprises privées, où derrière, vous avez des entités, d'autres entreprises qui ont peut-être profité de certains dons, je pense par exemple pour les EF, le groupe E-Greenwatt, la SA, ou d'autres entreprises créées, d'accord? Donc, on doit sauver des entreprises qui ont dilapidé du pognon, le pognon des contribuables. Voilà. Donc, on se retrouve dans 5 ans, hein, et puis on verra. Alors que des régies cantonales, hein, gérées à échelle humaine, à taille humaine, et puis gérées par le canton, sous le contrôle de la population, avec une transparence totale, ont bien fonctionné pendant des décennies. Qu'est-ce qui a cloché? L'avarice des gens? Fortement. La mafia derrière qui s'est imposée, hein, je pense notamment dans certains pays où la gestion des déchets s'est retrouvée scandaleuse. Je me rappelle dans les années 80 en Italie, c'était devenu, et c'est encore aujourd'hui un peu, où la mafia s'est arrogé le droit de gérer les déchets et ça a été devenu une catastrophe. D'accord ? Alors, il y a de quoi aussi se poser bien des questions sur ce sujet-là. Je ne vais pas encore vous casser les oreilles pendant longtemps, hein? Mais c'était juste pour vous expliquer que les entreprises, les régies d'État, les services publics ont leur raison d'être, d'exister, et doivent, d'une manière ou d'une autre, perdurer à travers les siècles et non pas être remis dans les mains de privés. Parce qu'on assiste aux dérives que l'on perçoit de plus en plus maintenant grâce à Internet, grâce à la rapidité des communications et des réactions des gens, on assiste de plus en plus à l'émergence des problématiques que ça pose. Encore une fois, si le privé était mieux capable de gérer des services communautaires, il y a longtemps que ça se saurait. Alors soit l'être humain a la mémoire courte, soit la mafia est extrêmement puissante derrière et vous mène par le bout du nez tout le monde. Mais à un moment donné, il faudrait dire stop et puis qu'on revienne à une gestion plus judicieuse. Des ressources qu'on doit avoir, qu'on doit pouvoir utiliser de manière communautaire pour le bien-être des êtres humains.